Le temps ne veut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne. Comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi bon crier dans cet univers déshumanisé? Les murs et les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le mot de votre prétendue liberté? Celle qui tous les jours en va poser. Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon pauvre débarron.
Courez bien vite, sinon on va vous massacrer.
Bruit de tôle. Une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2. Au sommaire de cette émission estivale, le témoignage d'une ex-prisonnière et quelques actualités de la prison qui ne fait pas de pause pendant l'été. On continuera avec l'interview d'une réalisatrice italienne sur le milieu carcéral et on terminera l'émission avec des nouvelles de la répression contre les migrants. Vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 05 61 53 36 95, de préférence pendant les pauses musicales. Et c'est, ça commence tout de suite.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence.
Il a warum des potiques, la flamme celtique, collasse de les conférences. Collasse de les conférences pour étudier tous les sens.
Bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages. C'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France. C'est la raison d'espérance.
Elle est le khadma wa'aran. L'immigré tisqabel. Yernas ou soum el khisen.
Au Karnas, il y a de la chance.
Au Karnas, il y a de la chance.
Mais c'est de la résidence. Les conversations, le chômage, l'immigration. Et après les élections, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence.
Mais il a eu l'amour, safar, azran la différence. Azran la différence, la résidence.
travail quand il est dur. C'est pour les migrés, bien sûr, avec la conscience pure. Dévouement et des souffrances. Dévouement et des souffrances. Ça mérite la récompense. Il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences. Il n'y aura plus de ruminance. Et tout ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence.
Le soleil en permanence.
Le soleil en permanence. Pour moi ça a de l'importance.
C'est un drôle de l'aïté. Je découle ta moule, t'es fergé. Je rappe des filles et t'ferrit. J'ai de mener un riche d'avance. Et de mener un riche d'avance.
Jusqu'à la fin de l'existence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France.
Ont combattu pour la France, bien avant la résidence.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France.
Bien avant la résidence.
On commence avec la lecture du témoignage d'Inaya, une jeune femme de 26 ans, sur les conditions de détention. C'est un témoignage qui est paru dans l'Humanité du 29 juillet.
J'ai choisi de témoigner après avoir vu à la télévision un reportage sur une maison d'arrêt dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout. La prison y était présentée comme un espace calme et tranquille, une sorte d'hôtel 4 étoiles où les détenus étaient confortablement installés et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. D'autre part, lorsque les médias parlent de la prison, ce sont le plus souvent des hommes qui s'expriment. J'ai l'impression que l'on n'entend jamais les voix des femmes détenues. Or, l'enfermement carcéral des femmes comporte des spécificités. Mon objectif est de les faire connaître et de donner une vision réaliste de la vie d'une détenue dans une maison d'arrêt pour femmes.
Le moment où j'ai réalisé que j'ai désormais un statut à part, c'est au moment d'un transfert. J'étais assise dans un véhicule, menottée mais sans ceinture de sécurité. La conduite heurtée me ballottait sans que je puisse me retenir à quoi que ce soit. Les freinages secs de la police sont bien connus. Si un accident s'était produit, je n'aurais pas du tout pu me protéger. C'est à ce détail que j'ai compris que désormais, j'étais passée dans une catégorie de personnes qui n'ont pas les mêmes droits que les autres, dont la vie vaut moins que celle des autres. J'étais une prisonnière.
On dépeint souvent la journée du prisonnier comme une journée où on se prélasse avec petit déjeuner servi au lit, promenade, télévision. Ce n'est pas la réalité. En prison, tous les matins, une alarme très violente retentit vers 6h55. Ce genre de réveil n'est pas montré dans les émissions télévisées montrant des détenus traînant au lit. Ensuite, il y a l'ouverture des verrous, un en haut et un en bas de chaque porte. Le bruit métallique que cela représente est très agressif, on dirait même que les surveillantes s'acharnent dessus pour rendre l'opération encore plus assourdissante. Et tous les soirs, c'est le même scénario quand les verrous sont refermés. À chaque fois, on sursaute, et c'est tellement violent que le matin, j'ai rapidement pris l'habitude de me réveiller avant pour être prête psychologiquement. Dans les centres de semi-liberté, il n'y a pas de verrous et pas d'alarme, ça fait une énorme différence, c'est extrêmement reposant. De plus, tous les jours, entre 14h et 16h, les surveillants viennent sonder tous les barreaux de toutes les cellules pour vérifier s'ils n'ont pas été sciés. Et le samedi matin, ils le font à 9h, ce qui crée une impression de persécution car on a l'impression qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de repos, même le week-end.
La nourriture est certes gratuite. Les repas sont sous forme de barquettes fabriquées en masse par des sociétés extérieures. C'est la même chose pour tout le monde, sans respect de régimes spécifiques liés à la santé des personnes, hypocaloriques, diabétiques, etc. Dès l'ouverture, cela sent mauvais et le goût est insipide. Il n'y a pas de sel. On n'a pas le choix de ce qu'on mange. On a même assisté à des scandales sanitaires quand une détenue a trouvé les restes d'un animal dans sa barquette. Mais on nous a interdit d'en parler. Des filles ont essayé de se plaindre, mais elles ont été menacées de transfert.
En prison, certains produits de base comme le papier toilette ou les produits d'hygiène ne sont pas fournis. On doit les acheter via le catalogue de la prison qui s'appelle la cantine, où le choix est limité et surtout les prix sont très élevés. Tout y est plus cher qu'à l'extérieur, on y trouve de la nourriture mais aussi des produits d'entretien, etc. Si on veut manger correctement, il faut cantiner. J'ai vraiment vu des filles qui n'avaient pas les ressources suffisantes pour le faire et avoir faim. Il y a de manière générale une multitude d'abus autour de l'argent, autour de ce qu'on nous fait payer en prison. Le téléphone est extrêmement cher alors qu'à l'extérieur on voit des gens qui ont des forfaits illimités pour trois fois rien. Un autre abus qui n'a l'air de rien quand il faut faire des photos d'identité, nécessaires pour renouveler des papiers, trouver du travail, etc. Et ben c'est avec un appareil photo numérique de la prison, de mauvaise qualité, mais c'est 1,20€ la photo. Quant au statut d'indigent, statut qui permet de bénéficier d'une aide si l'on n'a aucune ressource, il est absurde. Pour toucher 20€ en tant qu'indigent, il faut avoir perçu moins de 50€ en 2 mois. 20€ en détention où tout est payant, ce n'est rien, c'est vraiment la misère. Par exemple, avoir un poste de radio, un lecteur DVD, une plaque électrique pour chauffer à manger, c'est un luxe, alors que ces petites choses permettent de tenir. Exemple de prix, une petite plaque électrique, c'est 40€. Un poste de radio, 75€. Un lecteur DVD, 50€. Alors que la moyenne du salaire en prison, quand on a la chance, entre guillemets, de travailler, c'est 150€.
Ce qui est dur également en prison, c'est l'attente. Entre le moment où on met le drapeau, une feuille de papier passée à travers la porte pour signaler qu'on a besoin de quelque chose, et le moment où la surveillante arrive, il y a beaucoup de temps qui s'écoule. Il ne faut pas être pressé. S'il y a un réel problème, si on est seul en cellule, malade, on a l'impression de pouvoir mourir avant qu'une personne arrive.
Un autre problème, c'est l'ennui et le manque d'occupation. À la coiffure, il n'y a que 2 postes. De temps en temps, une formation coiffure est proposée. En temps ordinaire, le service général mobilise 10 personnes. Il s'agit pour ces détenus d'effectuer des travaux liés au fonctionnement interne de la prison, comme le ménage, la distribution des repas, etc. Et l'atelier, lui, emploie 30 personnes quand c'est plein. S'il y a 80 personnes dans une prison, 40 personnes sont donc occupées, soit seulement la moitié. Outre pour la promenade, on ne sort donc pas de cellule. De plus, les femmes ont souvent l'impression de n'avoir que les miettes des activités proposées aux hommes. Par exemple, ils ont bien plus de concerts, du rap, ce que n'ont pas les filles. Un jour, un conseiller d'insertion et de probation, qui était très motivé pour organiser des activités et déçu que peu de détenus aient participé, a fait passer un questionnaire pour savoir pourquoi il y avait aussi peu de personnes présentes. La conclusion a été que les horaires des activités se chevauchaient avec les horaires du travail. Il faudrait donc proposer des activités à d'autres horaires.
L'encadrement médical est un vrai problème. On distribue des traitements très lourds de manière quasi systématique. À ce rythme, on peut devenir un légume rapidement. Si tu as mal à la tête, que tu n'arrives pas à manger ou que tu ne vas pas bien, personne ne prend le temps de te parler, d'écouter, mais on te donne un médicament. C'est un moyen d'acheter la paix. Il y a l'exemple d'une fille qui a énormément de traitements. Un total d'au moins 16 comprimés, alors qu'on dit déjà qu'au bout de 4 médicaments, il y a un problème d'interaction. Quand je suis arrivée en prison, la première chose qu'on m'a proposée, c'est de prendre un cachet. J'en ai pris un, ça m'a complètement sonné, j'ai vu des étoiles. C'était dur, très violent. J'ai tout de suite décidé de ne plus en prendre. Cette surmédication entraîne beaucoup de problèmes. Tout d'abord, un problème de dépendance. Ensuite, un problème de trafic de médicaments, en promenade. Certaines filles vont en permanence au service médical pour obtenir des traitements. Parfois, les médecins ne vérifient même pas les antécédents, des allergies.
L'infirmière était surnommée « l'infirmière du marché aux puces ». En dépit du secret médical, elle parlait facilement des autres, pas forcément des traitements qui se prennent, mais des choses qui ne devraient pas être sues. Tel détenu est déprimé, tel détenu a fait ceci, cela, etc. En cela, elle enfreignait les règles de sa profession. Par exemple, quand j'ai été dépressif, je ne travaillais pas, ne me coiffais pas, ne me maquillais pas, restais sur mon lit, et demandais à aller à la douche en dernière. La surveillante avait demandé à l'infirmière un médicament pour me calmer, et l'infirmière l'a refusé, à cause de problèmes disciplinaires. J'avais fait entrer des puces de téléphone, alors que ça n'avait rien à voir avec son rôle médical. Elle mélangeait tout, outrepassait son rôle et se permettait de me juger. Par contre, je dois dire que j'ai pu bénéficier du soutien d'un psychologue, qui était très bénéfique. Le suivi psychologique fondé sur la thérapie par la parole et non le médicament est généralement très apprécié par les détenus. Et de fait, dans une prison pour femmes, on peut voir le psy plus souvent que dans une prison pour hommes, parce qu'il y a moins de détenus.
Chez les hommes, il y a les médicaments, mais aussi le shit, cannabis, qui agit comme un médicament, davantage que chez les femmes. Les hommes détenus sont en permanence défoncés, et les surveillants le tolèrent très bien, voire disent eux-mêmes, parce que c'est une manière d'acheter la tranquillité. Mais le shit, c'est vraiment aussi le symbole de l'injustice de la prison. Les surveillants ne vont rien dire si un détenu est défoncé, s'ils le voient fumer, tant qu'ils ne les embêtent pas. Mais s'il y a le moindre heurt, ils vont prendre le prétexte que le shit est interdit pour lui tomber dessus et l'envoyer au mitard, voire en conseil disciplinaire.
La privation sexuelle, très douloureuse en prison. On est constamment surveillé au parloir et on ne peut rien faire. J'aurais apprécié le fait d'avoir un minimum d'intimité au parloir, car non seulement on ne peut rien faire techniquement, mais on risque d'être en commission disciplinaire si on fait quoi que ce soit. C'est anormal car l'amour physique est un besoin naturel. Pour les filles qui se mettent en couple, l'homosexualité est sans doute bien mieux tolérée chez les femmes que chez les hommes. Il n'y a pas de violence physique contre les homosexuels, juste des commérages. Les détenus ne disent rien par devant, et après on entend « Oh, je suis choqué, je suis outré, je ne peux pas supporter », etc. Mais généralement, il n'y a pas de passage à tabac comme chez les hommes.
Les douches sont un endroit terrible. Ce sont un lieu de crasse et de misère. Déjà, avoir la douche tous les jours est un privilège. Les gens sont mis dans des cases. Les travailleuses, qui ont une douche tous les jours, et les autres, avec un jugement type pour qui l'administration part du principe « tu fous rien, t'as pas besoin de te laver ». Il y a un système de privilèges au mérite. Celles qui ne travaillent pas ont une douche seulement 3 fois par semaine. Du coup, on développe des techniques comme aller au sport pour pouvoir prendre une douche. Les douches sont collectives. Il y a 8 cabines sans aucune fermeture des portes. C'est sale, quasiment jamais nettoyé. C'est désagréable de se doucher avec d'autres gens. C'est un nid à microbes et le contraste des habitudes d'hygiène peuvent être très violents. Des filles qui défèquent dans la douche, des filles qui enlèvent leurs serviettes hygiéniques devant tout le monde, des filles qui lavent leurs vêtements dans la douche. Il y a aussi un problème de température. C'est toujours trop chaud ou pas assez. Les surveillantes ne savent jamais comment régler la température et ce n'est pas agréable. C'est chaud en été, froid en hiver. Et vu que ce n'est pas un espace où on est seul, ça peut être un espace d'échange, mais aussi un espace très violent. S'il y a des embrouilles entre détenus et ou des représailles à cause de leurs crimes, c'est dans les douches qu'elles se font passer à tabac. L'hygiène en cellule est également problématique. Officiellement, on peut changer de couverture tous les 6 mois, mais si on ne le demande pas, ça ne se fait pas. Le problème est déjà de savoir ce à quoi on a droit, et aussi de parler suffisamment bien le français pour pouvoir le demander.
Voilà, donc c'était le témoignage de Inaya que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Humanité. Et ce journal doit être suivi, il est noté en... un truc 1 sur 5, là apparemment il y aura une suite. Bon, on attend la suite, hein, ça fait 15 jours que la suite doit arriver. Mais voilà, donc vous pouvez retrouver ce témoignage, et d'ailleurs elle parlait, donc cette détenue, de médicaments. Et ça, des difficultés liées aux médicaments en détention. Et donc là, on a un témoignage d'un détenu qui est en grève de bithérapie au centre pénitentiaire de Liancourt. Donc Liancourt, c'est dans l'Oise. Et en fait, il s'appelle Malo, il a 47 ans, il est incarcéré depuis 2011. Il vit avec le VIH et l'hépatite C depuis 1990. Et donc là, il a décidé de ne plus prendre sa bithérapie depuis 1 mois, afin d'alerter sur les difficultés qu'il rencontre. Alors, quelles difficultés ? En fait, Malo a été transféré en février dernier. Et en fait, il avait un régime dit hypercalorique et des compléments alimentaires. Et depuis ce transfert, ce régime a été supprimé. Pourquoi ce régime ? En fait, les traitements contre le VIH entraînent souvent des troubles de l'appétit. Ça, c'est le médecin de l'établissement précédent qui le dit. Et donc, ce médecin indique ne pas hésiter à prescrire un régime hypercalorique et des compléments lorsque la personne est en demande pour créer ou maintenir le lien thérapeutique, déjà rien que pour ça, la finalité restant le soin et la bonne observance du traitement. Alors depuis cette suppression, Malo, donc ce détenu, se plaint d'avoir du mal à prendre sa bithérapie et de souffrir de diarrhée. Il dit qu'il ne mange pas à sa faim et il n'a pas assez d'argent pour améliorer la gamelle, comme le spécifiait Inaya, le témoignage qu'on vient de lire. Alors le Malo, lui, il mesure 1m95 et il pèse 76 kg seulement, alors que son poids dit de forme devrait être de 87 kg. Un problème de poids qui est contesté par le médecin de Liancourt, qui reconnaît cependant n'avoir pas vérifié dans son dossier médical, etc. Impossible accès aux soins accès aux produits d'hygiène spécifiques. En fait, second changement et second conflit avec l'équipe médicale. Il y avait un arrêté de 2011 qui spécifiait qu'on ne pouvait pas avoir des produits d'hygiène apportés en parloir. Cet arrêté a été supprimé en 2011 et Malo avait toujours l'habitude en fait d'avoir des produits pour soigner en fait des difficultés cutanées du fait de ces maladies. Et en fait, malgré qu'il ait produit un certificat médical qui atteste de son besoin de ces soins-là, c'est refusé par l'administration pénitentiaire cet accès à des produits d'hygiène spécifiques. Alors le médecin responsable de l'unité sanitaire explique qu'une note de service de l'hôpital impose désormais que toute prescription d'un médecin de l'unité sanitaire de Liancourt soit fournie par la pharmacie de l'hôpital de Creil. Enfin bon bref, des justifications qui justifient pas grand chose. Et donc voilà, donc Malo a décidé de se mettre en grève de bithérapie, en fait, de son traitement. Et il se sent perturbé psychologiquement et affaibli physiquement par les changements imposés par l'équipe médicale de Liancourt dans ses habitudes alimentaires et d'hygiène. Depuis longtemps ancrée, Malo s'est emporté contre le médecin de l'unité sanitaire au mois de mai dernier, du fait de ses interdictions. Alors, le médecin a jugé bon de porter plainte contre lui. Depuis, la confiance et les liens thérapeutiques sont complètement rompus et donc il s'est mis en grève de sa bithérapie. Il met ainsi gravement en péril sa santé, une interruption de soins pouvant entraîner une augmentation de la charge virale, voire une résistance du virus au traitement. Et le choix du médecin étant impossible en prison, il réclame son transfert vers un autre établissement où il espère pouvoir renouer le dialogue avec une autre équipe médicale. Malo s'est également battu contre les conditions peu hygiéniques dans lesquelles était remis sa bithérapie, mais bon, apparemment ça se serait arrangé. Avant, sa bithérapie lui était fournie dans une enveloppe en papier kraft qui était glissée sous la porte de sa cellule, et donc maintenant elle s'est donnée en main propre, alors c'est vachement mieux. Donc vous pouvez trouver un peu plus d'infos sur le cas de Malo sur le site de l'OIP, puisque c'est
l'Observatoire international des prisons
qui a alerté sur ce cas-là. Voilà.
Et donc, on continue avec une condamnation de l'État pour ne pas avoir appelé les secours, et ce qui a entraîné, a priori, la mort d'un détenu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vers 6h30, un surveillant et un gradé entrent dans la cellule et trouvent Monsieur Thiam, inconscient, allongé sur son lit en position latérale de sécurité. Une légère perte de sang au niveau de la bouche avec une respiration haletante. Le co-détenu leur décrit précisément les symptômes. Cris, convulsions, apparition de bave, raidissement. Mais le surveillant n'estime pas nécessaire d'appeler le SAMU. Pourtant, le service médical n'ouvre qu'à 8h et le code de procédure pénale impose que si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'UCSA, donc c'est le service médical, d'appliquer les directives prévues par le protocole signé entre la prison et le centre hospitalier, qui prévoit qu'en situation d'urgence, le personnel pénitentiaire fait appel au centre de régulation du SAMU, donc le 15. Aux alentours de 7h, Aliou Thiam fait une nouvelle crise d'épilepsie. Il y a une nouvelle alerte du co-détenu. Cette fois, les surveillants ne réalisent qu'un contrôle visuel à travers l'œilleton et indiquent que M. Thiam sera examiné par les infirmières du service médical à leur arrivée. Or, 7h du matin, c'est l'heure à laquelle l'équipe des surveillants de jour remplace l'équipe de nuit. Cette dernière indique qu'Aliou Thiam devrait être vu rapidement par le service médical, consigne transmise au service médical à son ouverture. Mais le signalement auquel il a été procédé par l'administration pénitentiaire ne faisait pas état des pertes de connaissance et de convulsions. Un fait que reconnaît le ministre de la Justice lors du procès. Ainsi, M. Thiam n'est appelé qu'à 9h20. Frappé d'amnésie, comme il est fréquent après ce genre de crise, il se plaint juste de douleurs très fortes au visage, au dos et aux jambes, ce qui affecte le diagnostic. À 9h40, il fait une nouvelle crise d'épilepsie en sortant des locaux du service médical. Le 15 est enfin appelé, mais aucune équipe du SAMU n'étant disponible, ce sont les pompiers qui arriveront sur les lieux vers 10h30. Son décès sera constaté à 11h. Alors, selon l'expertise médicale qui a été réalisée à l'issue de son décès, il est certain qu'une prise en charge immédiate après la première crise d'épilepsie aurait permis de faire constater plus rapidement par un personnel compétent la perte de connaissance puis la récidive et d'orienter de manière adaptée vers un service hospitalier susceptible de prendre en charge une éventuelle aggravation. Le rapport estime qu'il est également certain que les témoins, donc le codétenu et les surveillants, avaient des informations utiles pour le service médical et qu'il semble cependant qu'aucune information n'ait été transmise. Donc, suite à ça, dans un jugement du 23 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille, puisque tout ça, ça s'est passé dans la prison de Loos, donc juste à côté de Lille, a condamné l'État à verser 34 000 euros à la famille d'Aliutiam, donc qui est décédée le 10 juin 2007 à la maison d'arrêt de Loos, à l'âge de 38 ans, d'un arrêt cardiaque suite à plusieurs crises d'épilepsie.
Ouais, donc la vie d'un détenu, c'est 34 000 euros, quoi, c'est ça.
C'est ça.
Bon, on va écouter un petit peu de musique qui parle de murs, tiens, c'est d'actualité. Et puis ensuite, on pourra écouter une interview de Micaela Occipinti, qui est la réalisatrice du film Lettere dal deserto, Elogio della lentezza, Lettre du désert, éloge de la lenteur, film qui est sorti en 2010.
Ich liebe dich, Greta, ich liebe Tag, Redisch, ich liebe das, Greti, dis-moi pourquoi, Greta, dis quoi pour ta, Gré-moi, dis qu'à pour moi, Grota, y'a un mur entre toi et moi. I love you, Greta. I love ya, Greta. I love ya, Greta. Dis-moi pourquoi, Greta. Dis quoi pour ta. Gré-moi, dis qu'à pour ma. Greta, y'a un mur entre toi et moi. Oh oui, je t'aime, Greta. Oh oui, je t'aime, Greta. Oh oui, je suis, Greta. Dis-moi pourquoi, Greta. Dis quoi pour ta. Gré-moi, dis qu'à pour moi. Greta, y'a un mur entre toi et moi. Dis-moi, varum. Greta, dis-moi pourquoi, Greta, pourquoi que t'habites à Berlin-Est, pourquoi que j'habite à Berlin-Ouest.
Donc bonjour, je reçois Micaela Occipinti, réalisatrice italienne, et nous avons vu un magnifique film qui se passe dans un désert avec un facteur qui marche. Et ce film a comme sous-titre qui est intéressant, l'éloge de la lenteur. Mais en discutant avec Micaela, on aperçoit que justement il y a un film et il y a une vie et tu fais plein d'autres choses. Et notamment, tu as eu l'occasion d'être confrontée à l'univers carcéral, à l'enfermement. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'abord la première expérience qui était en Italie?
Oui, bien sûr. Bonjour, merci. Bonjour. Et absolument, il doit y avoir une douzaine d'années, plus ou moins, même plus, j'avais pris partie à un film dont je travaillais comme inspecteur de production et assistante réalisation d'un réalisateur italien pas très connu qui a que tourné 3 films dans sa vie, mais très, 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 très particulier, très originaux. Et le dernier film qu'il a tourné, c'était un film qui se passait pendant 2 semaines dans une prison, et notamment dans la prison de Rebibbia à Rome. Non, si, Rebibbia à Rome. Et c'est la plus grande prison de Rome. Et on a tourné pendant 2 semaines dans la... Ça s'appelle les bras, parce que c'est des longs couloirs, disons, exactement. C'est le G9, c'était le bras où les détenus à longue peine étaient. Et donc, bon, la différence, c'est que moi, je sortais après tous les soirs. Eux, ils restaient là, et ils ne restaient pas là que ces 2 semaines. Ils restaient là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et après, les jours que j'ai passés là, même si on était en train de travailler, mais de fait, les détenus étaient les acteurs du film. C'était un film fiction, mais les détenus faisaient leur part, jouaient leur caractère. Et en leur demandant plein de questions, parce que je suis une personne très directe, des fois c'est pas très bien, mais je leur demandais tout le temps, mais pourquoi t'es là, qu'est-ce que t'as fait, si tu veux m'en parler. Et on se rend compte après que les choses sont toujours comme partout, mais là c'est un environnement encore plus extrême, que les choses sont jamais comme on les imagine, qu'il y a des chiaroscuri, non, des gris, de toutes les tonalités, et que la prison, n'importe laquelle c'est pas un lieu qui est fait. Je ne sais pas s'il y a peut-être des expériments quelque part dans le monde. Il doit y en avoir, mais la plupart des prisons, positives, je veux dire, plus positives, mais la plupart des prisons, comment est-ce qu'ils peuvent, en renfermant les personnes, quand les renfermant, créer des futurs citoyens qui vont retourner dans le monde meilleurs qu'avant? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il faut... Les prisons, pour moi, des murs fermés, des barres, ça c'est que d'une punition, et alors ça sert à quoi? Il faut recréer l'être humain. L'être humain a fait des erreurs. Je parlais, bon, après on arrive à ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dehors, qui ont fait beaucoup d'erreurs très fortes, mais qui ne sont pas punibles par la loi, non? Et puis des fois, on est, surtout pour les peines moyennes, mineures, je trouve que ce type de prison, comme on le connaît, comme on la connaît, est vraiment que punitive, et il faut vraiment avoir une forte personnalité, un fort confiance en soi pour maintenir un espoir, parce que il te la tue en fait en prison, cet espoir. Et donc qui est pire, qui peut-être a terminé par être enfermé en prison parce que peut-être il a tué quelqu'un, peut-être des fois même dans un moment de folie ou par erreur, ou qui tue lentement, l'État qui tue lentement ces êtres humains qui ont fait des erreurs en les privant de tout, pas que de la liberté.
Mais l'État, il le fait en notre nom quand même.
Mais oui, c'est vrai. Et nous, on n'arrête pas, on l'arrête pas.
Voilà. Parce que comment tu as eu conscience de la prison avant de faire ce reportage? Pour toi, la prison, ça n'existait pas ou tu n'étais...
Non, ça existait, mais comme il existe tellement de questions terribles dans le monde, et j'étais pas consacré à ce thème. En plus, c'était un film fiction, c'était d'un autre réalisateur. Moi, je travaillais sur ça en production et assistante réalisation.
Ouais. Et malgré, on va dire, le travail sur le film, tu as pu essayer d'en parler aux prisonniers ça devait faire un drôle d'effet, puisque c'était des hommes que des hommes, et des toi, hommes. En tant que femme, ils te répondaient.
Oui, la plupart étaient vraiment très ouverts à raconter leur histoire sans... gêne. Puis après, tu trouves, comme dans la vie, dehors de la prison, je veux dire, des personnes qui sont plus introversées.
Oui, c'est ça. Et comment ça se passait? Quels sont tes souvenirs? Parce que tu as dit que dans tes films, tu travailles beaucoup par image. Donc là, quelles sont les images qui t'ont frappé dès le premier jour, ou même avant, de savoir que tu allais travailler en prison? Ce cheminement, parce que c'est justement comme c'est quand même un lieu de relégation,
oui,
assez terrible, et qui est en centre-ville, donc qui est dans la ville, non?
Mais c'est pas en centre-ville, mais quand même pas loin.
Ouais, ouais. Donc qu'est-ce que soit tes souvenirs, ou qu'est-ce qui t'a marqué
Et bon, tout, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'années. Je me rappelle qu'il y avait une chose très bien, de toute façon, parce qu'il faisait du théâtre. Il faisait du théâtre et il y avait un grand stage. Et ça, c'était de l'air frais, quoi, dans une vie toujours égale, sinon. Et oui, ce sens de plus, moi, je pouvais bouger dans la prison. J'étais la seule de l'équipe qui avait le permis de sortir et rentrer parce que j'allais prendre l'eau, les trucs qui servaient. Mm-hmm. Et marcher, je faisais une quinzaine de kilomètres chaque jour dans la prison, dedans, hein, pas dehors, mm-hmm. dedans. Parce que pour sortir de ce bras et aller dans le corps principal de la prison et puis ressortir, c'était très, 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 très long. Je ne sais pas si peut-être 3 kilomètres. Alors, je faisais aller-retour peut-être 4 fois par jour, ça faisait quand même beaucoup. L'enfermement en général, ne pas avoir l'horizon pour moi, les barres, ne pas regarder dehors, ou aussi regarder dehors mais toujours avec un obstacle en face de ses yeux. La privation de la liberté, qu'est-ce qu'il y a de pire, je vois.
De pire, ouais. Et ils ont témoigné un peu de leurs conditions, ils ne pouvaient pas trop parler.
Non, ils pouvaient parler librement. Ils pouvaient parler librement. Ça, je ne me rappelle plus vraiment, parce qu'il y a vraiment trop d'années qui ont passé.
Oui. Et donc, en fait, le hasard fait que tu arrives ici à Foix, à Résistance, et que ton film a été sélectionné par le comité de sélection des prisonniers de la prison de Foix qui jouxte le centre culturel. Donc là, tu as été à la projection hier après-midi. Est-ce que tu peux donc nous raconter ?
Donc, alors, c'était hier à 14h30. Le festival m'avait écrit il y a peut-être 2-3 semaines chaque année, il proposait et présentait en vision dans la maison d'arrêt 4 films plus ou moins dont les thèmes étaient un peu plus d'évasion, parce que c'est clair qu'on ne va pas leur montrer des films qui ont des thématiques de violence ou de problématiques très très fortes, parce que déjà ils n'ont pas une vie très simple. Exactement. Donc ils ont besoin de films pour évader, même que visuellement. Et donc, ils ont présenté 4 films et ils m'ont écrit, le festival m'a écrit en me disant que ce jury de détenus qui était composé par 8, si je ne me trompe pas, avait décerné leur coup de cœur à mon film cette année. J'étais très très heureuse parce qu'en me disant...
Intitulé « Letter from the Desert », c'est ça ?
Oui, « Éloge de la lenteur ». Lettre du désert, éloge de la lenteur. Ça parle d'un postier dans le désert du Thar en Inde. Et la motivation était parce que pour eux, la vie de ce postier, tout en étant très simple, n'était pas du tout misérable, et que les images leur avaient donné la possibilité de s'évader pendant 1h30. Ça m'a fait à moi un coup de cœur. Donc, hier, on a fait cette projection. En effet, heureusement, les 8 détenus du jury ont été tous libérés entre-temps. Donc, il y avait d'autres...
Oui, parce que c'est une maison d'arrêt, il y a des peines courtes là.
Au moins de passage, disons, parce qu'il y avait 8 détenus hier et un avait une peine de 13 ans. Il était à peine rentré, mais puisqu'il est d'un autre département, il va être après
transféré.
Donc,
ce n'est pas les mêmes qui avaient sélectionné.
Non, pas du tout, parce qu'ils ont été libérés. Et je suis très heureuse, parce que ça veut dire que... hier, il y en avait 8, et comme... Dehors de la prison, on a des connexions ou pas des connexions avec quelqu'un. Et j'ai eu une forte connexion avec un garçon, spécialement, c'était le plus jeune de tous. Et tout le monde a fait des remarques très intéressantes. Mais lui, il a fait des remarques qui m'ont beaucoup touchée. Et il avait compris des choses que j'aurais voulu dire, mais ce qui n'était pas évident, mais pas parce qu'elles étaient hautes ou culturellement élevé, mais parce que des fois on a envie d'exprimer quelque chose et peut-être ça n'arrive pas à qui ça doit arriver, et à lui ça lui est complètement arrivé. Il a utilisé en ne rien sachant de mon travail les mots exacts que j'utilise pour expliquer cette scène particulière. Donc ça m'a très touchée, et à un moment donné je lui ai demandé, mais que à lui, je ne sais pas pourquoi, peut-être grâce à cette connexion, je lui ai demandé pourquoi il était là et combien de temps il avait, et puis il avait 24 ans. Donc mais la chose, parce que je ne m'arrête pas à dire qu'est-ce qu'il a dit de mon film, de bien ou de mal, parce que c'est pas tellement intéressant, mais je n'arrive pas à m'enlever de la tête une des phrases qu'il a dit. Et il m'a dit exactement, toi tu as filmé le désert, mais ici, c'est un désert, le plus aride des déserts, chaque jour, chaque instant. Et là, après, on s'est un peu éloigné des autres et on a passé le temps qu'on pouvait passer en parlant. Et bon, j'ai essayé de lui donner un peu d'espoir parce qu'il en avait besoin et que sa peine est relativement courte parce qu'il a que 6 mois encore. Il est là depuis 2 mois et dans une vie de 24 ans, à peine 6 mois, c'est rien.
Oui, c'est long quand même aussi.
C'est long, mais c'est...
Il sait qu'il va sortir.
Oui, exactement, il sait qu'il va sortir. 6 mois, moi j'ai essayé de lui dire qu'en 6 mois, on peut, puisqu'il m'est paru une personne extrêmement intelligente, sensible, avec un regard très personnel, qu'il peut vraiment essayer de se construire et de se pardonner peut-être pour l'erreur qu'il a faite. Et essayer de commencer à construire déjà en travaillant très fort sur lui-même, parce que je me rends compte quand même que rester là toute la journée, moi je suis sortie hier, mais lui est resté et il est ici juste à 20 mètres de nous, même aujourd'hui, demain, après-demain, c'est long, mais c'est quand même pensable 6 mois, je les vois 6 mois, c'est les années qui commencent à être compliquées. Donc voilà, et ma dernière image de lui, c'est lui qui marche dans le couloir pour entrer dans sa cellule. Et c'est le dernier qui est parti. Et il s'est tourné vers moi et il m'a envoyé une bise. Et moi aussi, je lui ai envoyé une bise. Basta, c'est ça. Ça a été très... Pour moi, maintenant que je suis un peu détachée de mon film, parce que ça fait, c'est un film qui a quelques années, ça, c'est les seuls moments importants. Vraiment. Oui, mais personnellement, en créant une séance spéciale pour une ou plus, ça n'importe pas le numéro de personnes qui ont quelque chose, qui sont en train de vivre au moins temporairement ou plus allant, une vie suspendue du reste du monde.
Alors, je voudrais dire aussi, c'est très riche parce que le cinéma, je veux dire, la culture en prison, comme tu dis, c'est un enfermement, il n'y a rien à faire toute la journée.
Ah bah oui.
C'est terrible, quoi. Et là, de rencontrer en plus la personne qui fait le film, c'est comme une espèce de respect réciproque, quoi.
Oui, je dois dire, en général, ça a été une expérience très forte, très touchante, mais en particulier, la rencontre avec ce détenu, Jeanne, il s'appelait.
Mais est-ce que tu as retrouvé quand même, malgré la taille, tu as retrouvé ce sentiment d'enfermement, les grilles, les surveillants, les contraintes de fouille, je ne sais pas, tout cela?
Oui, mais d'une façon un tout petit peu plus douce.
Carrément.
Oui, parce que là, les personnes qui travaillent dans la maison d'arrêt me paraissaient, mais c'est une sensation, oui. Parce que je ne peux pas dire, parce que j'ai passé 3 heures. Et je les ai vus pour quelques minutes, me paraissait beaucoup plus
humaine,
oui. Humaine, et aussi le fait que ce soit une prison à courte peine, j'ai ressenti moins de tension. Là, dans la prison où j'avais été, il y avait beaucoup de tension quand même, beaucoup de tension.
Et justement, par rapport à l'enfermement en général, comme tu dis, c'est pas possible, tu développes, tu as une idée ou... puisque nous, si t'interroge, c'est par rapport à une émission qu'on fait à Bruit de Tôle, et on rejette totalement cette notion d'enfermement et aussi cette notion de punition, parce que c'est assez judéo-chrétien, hein, c'est-à-dire que quand elle fait quelque chose, on ne va pas savoir pourquoi, comment, bien qu'on peut le décortiquer pendant le procès, mais une fois qu'on a tout dit, tac, c'est la sentence qui tombe et il n'y a rien, on vous enferme et on vous transforme en fait. Hein.
Oui, c'est ce que je disais plus ou moins au tout début. Je suis pas une experte de prison. J'ai eu que ces 2 brefs expériences, mais j'ai toujours pensé que la prison, comme elle est connue à nous, la plupart des prisons sont une expérience que punitive. Oui, on peut faire des petits théâtres, des petites choses, mais ça sert à un tout petit peu, mais c'est pas résolutif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer 2 semaines en renfermé et puis faire 2 heures de projection ou 1 heure de dessin. Ou c'est quand même quelque chose de mieux, c'est sûr. Mais c'est que la prison devrait être complètement reformée. Je suis sûre, mais je ne sais pas exactement lequel. Il y a des expérimentations de prison plus humaine, créative et tout ça. La prison devrait être un lieu... On devrait immédiatement changer le nom, déjà. Tac. On devrait les combler... Exactement. Peut-être appeler des centres de réhabilitation ou quelque chose de ce genre, où une personne qui a fait une erreur, petite, moyenne ou grave, rentre et est suivie selon l'erreur, le type d'erreur qu'elle a faite, parce que c'est clair que si on a volé déjà ou on a tué quelqu'un, il y a une différence quand même. Si on a volé, on n'est pas dangereux pour la société, non, déjà. Et donc, on pourrait même ne pas être renformé
du tout. C'est la majorité de ceux qui remplissent les prisons.
Exactement, c'est ça qui est terrible. Mais comme en Italie aussi, la plupart des gens qui remplissent les prisons, c'est pas comme ça devrait être des gens qui ont fait des erreurs énormes, même en finance, je veux dire, qui ont ruiné des entières familles, non? C'est beaucoup pire, voilà. Qui a volé quelque chose, c'est souvent par nécessité, souvent. Et souvent, cette nécessité est créée par l'injustice de la société, non? S'il y avait un...
C'est un cercle...
Mais oui, c'est un cercle. Donc, il devrait y avoir des centres de récupération, de réhabilitation, où on apprend des travaux, où on est libre de dormir. Aussi, la privation du sexe, la privation des affections et tout ça. Mais comment ça peut améliorer une personne? Comment?
Les parloirs,
c'est... Mais c'est une chose tellement...
Tu en avais vu à Rome aussi, des...
Oui, j'en avais vu. C'est une chose tellement anesthétique. Comment on dit? Comme quand tu rentres dans une salle opératoire et tout est...
Non, c'est tout.
Oui, tout, non, mais comme...
Inhumain.
Oui, froid, métallique, quoi. Ouais. C'est... Et comment peux-tu, quand tu es dans cet endroit, dans cet environnement, être toi-même, parler vraiment de ce que tu veux avec la personne ou les personnes qui sont venues te voir?
Et oui, parce que ça part du principe, de la punition, de l'enfermement, et la hantise, c'est il ne faut pas qu'ils s'échappent. Et après, quand tu parles de centres de réhabilitation, en France, je ne sais pas si en Italie, on a des centres pour mineurs et qui sont des prisons. Et alors là, c'est terrible parce que chaque mineur a au moins 3 ou 4 adultes sur lui. Il a pas... Alors là, c'est l'inverse, pas un moment de liberté, pas un moment pour se reconstruire dans sa tête. À chaque fois, alors là, c'est l'inverse, on le surcharge.
En plus, les mineurs, je pense qu'ils devraient aller à l'école, les envoyer à l'école. Et puis reprendre et mettre dans des prisons, des maisons, d'accueil, où il y a des choses, des psychologues qui suivent, mais avec une humanité. Mm-hmm. Je sais pas, c'est une question tellement énorme.
Ah non, à partir de 13 ans, un enfant peut être condamné.
13 ans.
En France, à partir de 13 ans, il y a un enfant qui a fait la garde à vue. Et on peut être condamnable pénalement. Parce qu'ils sont responsables pénalement à partir de 13 ans.
Ça, je ne crois pas en Italie. Non. Je ne suis pas sûre. Je crois qu'ils vont à cet âge dans des maisons d'accueil ou quelque chose de ce genre. Pas dans des prisons. Mm-hmm. Je crois qu'il faut... Je crois, peut-être je me trompe, au moins 16 ans. Mm-hmm. Je crois.
Mais en France, ils ont créé des centres fermés. Il y a plusieurs évolutions. Mais l'enfant est considéré, il est puni, quoi. Il est condamné par la justice puisqu'il peut être pénalement responsable.
C'est de l'abus de mineurs, de la violence sur les mineurs.
C'est une société folle, quoi.
Mais oui. Mais pour les prisons et pour un tas d'autres choses comme... Mm-hmm. L'éloge de la lenteur, ce thème qu'ils ont cette année au festival, pour moi, en fait, à part un fait philosophique et de style de vie personnel, serait plutôt aussi dans forme utopiste. Ça donnerait plus de justice sociale. Si on ralentit tous, on a le temps de tous de pouvoir faire tout, c'est-à-dire il y aurait plus peut-être de travail pour tout le monde au lieu d'avoir une partie de la population qui travaille 14 heures par jour et une qui est au chômage, peut-être partagée. C'est très utopistique. Et avoir le temps pour le regard vers l'autre.
Il faudrait être libre pour ça.
Il faudrait être libre, oui. Mais c'est déjà, on pourrait parler pendant 3 semaines.
Non, mais je te remercie, je voulais ce témoignage par rapport à ton regard sur la prison.
Merci beaucoup.
Sur cette expérience.
Merci, ça a été, je dois dire, la projection de hier, une des choses plus belles que j'ai fait avec ce film, pour moi.
Parce que c'est plus intense, tu penses, le fait...
Parce que les films, c'est fait... je ne suis pas fausse, on les fait pour soi-même, parce qu'on a envie ou urgence de raconter quelque chose de spécifique. Mais plus que tout, on les fait pour qu'ils soient vus. Parce que si on fait un film et on le garde à la maison, je sais pas où. Donc on les fait pour être vus, et qui doit voir les films? Les films sont vus par les personnes. Et pour moi, si les personnes sont en difficulté ou sont particulièrement sensibles, soit aussi bien personnellement que pour la situation où ils se trouvent dans leur vie, et ça, pour moi, c'est, et si le film leur donne quelque chose, pour moi, c'est plus spécial qu'un spectateur normal, régulier, disons, pas normal, ils sont normaux aussi, mais qu'un spectateur qui...
Dans des conditions normales.
Oui, exactement. Moi, je peux aller acheter un ticket, voir un film, sortir. Ça, c'est des conditions spéciales.
Tandis que là, oui, ça, c'est le cinéma qui va à la
Oui, carrière. Exactement. Donc ça m'a beaucoup touchée.
D'accord.
Ça, je vais garder avec moi.
Oui.
Longtemps.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous, beaucoup.
Voilà, c'était l'interview de Micaela Occipinti sur son film Lettere dal deserto. Et tout de suite, on écoute un petit peu de musique et on revient juste derrière pour clôturer l'émission.
Marine Le Pen avec un chiffre à 18,3.
Contre toute attente, à la table des élites.
Alors, Postache, tu te la pètes ou quoi?
Et toujours faire enculer.
Tu vas te prendre des charters remplis d'immigrés. Tu parles de valeurs et des travailleurs, mais même le pavé n'est pas dans ton cœur. France de con, résistance. France de con, résistance. Y'aura même des pas loin, tu connais pas l'histoire. Tu prendrais de revoir les fachos au pouvoir. FN, on t'encule. On t'encule. France de con, résistance. France de con, résistance. Ta parole est couleur qui rentre dans ton quartier. T'en as jamais croisé ailleurs qu'à la télé. Y'a rien à dire de plus, t'es qu'un dégueulasse. Tu comprends rien à rien à part à cette pétasse.
FN, on t'encule. On t'encule. FN, on t'encule.
Les jeunesses en mortelle, le Front National. Maintenant elle vote à droite, escroc radical. Je suis rouge de colère face à ces jeunes cons qui ne connaissent qu'un petit, ils ne pensent qu'au pognon. Je crache sur la droite, vomis sur l'extrême droite. Politique sarkozyste, des complexes de racistes. Une tâche indélébile, 20% de connards. Je réponds à ces débiles, FN à l'abattoir. FN, on t'encule. On t'encule. FN, on t'encule. FN, on t'encule. On t'encule.
Voilà, c'était Clotaire Premier. Alors, la pratique de l'enculade n'est pas une pratique sexuelle. Et bon, même si le message on le soutient, la forme est peut-être pas forcément très soutenable. Bref, passons à Rennes.
Alors, à Rennes, où, puisqu'on parlait de la France des cons, il y a un certain nombre de cons qui agissent. Donc, c'est le samedi 2 août, il est 3h du matin. 7 individus ivres sont entrés dans le campement des migrants du quartier de Clenay, à Rennes. Ils ont proféré des insultes racistes en dégradant à la chaîne et au bâton les parties communes et les réserves de nourriture avant de frapper les tentes et de menacer leurs occupants. Selon l'un des habitants du campement, l'un d'eux aurait dit « Crevez comme des porcs, vous qui vivez comme des chiens ». Charmant.
Merci.
Le campement de Clenay héberge actuellement une soixantaine de personnes, dont 23 enfants et 3 femmes enceintes, qui viennent de Géorgie, d'Arménie, d'Albanie, du Kosovo, du Bangladesh, du Maroc et de Libye. C'est un campement qui a été construit par les migrants et les migrantes avec l'aide d'associations rennaises, dont RESF. Et donc, tandis que les associations donc, se relayaient le jour et que les migrants mettaient en place des quarts de surveillance la nuit, le collectif antifasciste rennais a passé plusieurs nuits à surveiller les alentours. La police s'est déplacée au camp et a pris les dépositions des migrants. Et dans la nuit du 9 au 10 août, une voiture s'est à nouveau approchée du campement et une personne en est descendue et a poussé deux hurlements avant de s'enfuir. Donc suite à ce deuxième incident, la surveillance nocturne a été renforcée par les associations et les militants antifascistes qui ont décidé de constituer une ligne d'autodéfense autour du campement 24 heures sur 24.
Voilà, et donc dans un joli climat raciste, hein, voilà, comme il existe aussi à Calais, c'est ça ?
C'est ça. À Calais, où depuis le 5 novembre 2002, donc le jour où le gouvernement français a fermé et détruit le centre d'accueil des réfugiés situé sur la commune de Sangatte et géré par la Croix-Rouge, les violences policières n'ont pas cessé dans la région. Il y a eu notamment un épisode assez connu, le 22 septembre 2009, la jungle de Calais a été évacuée et détruite, donc il y avait 276 migrants, dont 135 mineurs qui ont tous été arrêtés. Donc depuis la fermeture du centre de Sangatte, les camps et lieux de vie des migrants se sont multipliés autour des ports et le long des autoroutes de la région. Donc ils y survivent dans des abris de fortune, dans la promiscuité et l'insalubrité. Et ces lieux sont régulièrement détruits. Mais ces derniers mois, on voit que les événements s'accélèrent. Les évacuations des lieux de vie, les arrestations et les violences policières se multiplient. Le 28 mai, à Calais, les lieux de vie et les biens personnels de plusieurs centaines de migrants sont détruits sur décision préfectorale pour cause d'une épidémie de gale ignorée depuis 2 mois par l'administration de la région, malgré les appels répétés des associations. Le même jour, en protestation, les exilés occupent l'esplanade grillagée utilisée par les associations lors des distributions de repas. Le 2 juillet, ce lieu est évacué en même temps que 3 squats. Plus de 600 personnes, dont 121 mineurs, font l'objet de contrôles d'identité, sont emmenées dans des bus vers différentes villes et les documents de certaines d'entre elles sont confisqués. 206 personnes sont enfermées dans différents centres de rétention administrative. Ainsi éloignées, elles se retrouvent privées de leur soutien militant. Dans les jours suivants, la quasi-totalité des exilés interpellés sont de retour dans les rues de Calais, puisqu'elles veulent passer en Angleterre et qu'on passe en Angleterre par Calais. Le 12 juillet, une manifestation de soutien réunit plus de 500 personnes. Le même jour, l'ouverture d'un nouveau squat dans une usine désaffectée est soutenue par plus d'une trentaine d'associations locales et nationales et rendue publique. Le 22 juillet, 5 personnes, 3 migrants et 2 militants, sont convoqués au tribunal d'instance de Calais dans le cadre d'une audience d'urgence à la suite d'une plainte déposée par le propriétaire du site occupé. Cette plainte invoque la dangerosité de cet ancien site industriel, alors même que les zones les plus dangereuses ont été interdites d'accès par les occupants eux-mêmes, parce qu'ils sont pas, hein, ils sont pas fous, ils n'ont pas envie de prendre de risques. Et le jeudi 24 juillet, le tribunal a statué pour l'expulsion, comme si l'occupation de l'usine relevait d'une envie collective de pur confort. Il n'a pas reconnu l'état de nécessité dans lequel se trouvent les exilés par la faute d'un État qui ne respecte aucune de ses obligations, que ce soit le droit à l'hébergement, défini comme une liberté fondamentale, le droit au respect de la dignité humaine, le droit à des conditions matérielles d'accueil définies par la loi pour les demandeurs d'asile, c'est pourtant lui qui l'a fait, donc il pourrait la respecter, mais non, le droit à la protection et à des mesures éducatives pour les mineurs isolés, le droit à la santé, etc., etc., etc.
Voilà, donc État raciste, justice complice et police assassine. Voilà. pour rebondir sur ça, sur l'évacuation du 3 juillet à Calais, là, la préfecture de police à Paris a pris le relais dans la répression, donc avec une interpellation massive orchestrée vendredi 8 août, donc vendredi dernier en fait. Et ce sont au total 300, n'allons pas trop loin quand même, 300 exilés, c'est déjà pas mal, 300 exilés originaires des pays en guerre qui ont été enfermés par l'État depuis le début du mois de juillet. 8 août, donc vendredi dernier, 6h30 du matin à Paris, opération policière de grande envergure qui a conduit à l'interpellation massive de plusieurs dizaines de personnes d'origine érythréenne et soudanaise qui dormaient dans un campement sous le métro aérien entre les stations de La Chapelle et Barbès. 40 d'entre elles ont été placées en centre de rétention administrative au Ménil-Amelot. La veille, le jeudi 7 août au soir, 30 personnes originaires d'Afghanistan et d'Érythrée avaient déjà été arrêtées à la gare du Nord et à la gare de l'Est avant d'être placées au centre de rétention de Vincennes. Elles viennent s'ajouter à 25 Érythréens enfermés dans les centres de rétention administratifs de Paris-Vincennes depuis le début du mois de juillet. Donc c'est quand même avec la grande rafle de Calais le 3 juillet, c'est près de 300 personnes originaires de pays en situation de conflit généralisé qui ont été enfermées en centre de rétention administrative. Et l'enfermement en centre de rétention administrative, le but quand même de cet enfermement, c'est d'expulser les personnes. Donc voilà, en venant demander le renfort de la préfecture de police de Paris dans ses opérations ciblées contre les populations qui ne cherchent qu'à fuir les pays en guerre, le gouvernement poursuit une nouvelle fois la politique de ses prédécesseurs, répression en lieu et place de la protection et de l'accueil et utilisation de la force publique pour tenter de rendre les exilés invisibles, et parce que ça les dérange de voir des gens qui dorment sous des métros. Hein. Alors c'est un communiqué de la CIMAD qui redemande au gouvernement de libérer les personnes des centres de rétention administrative, de mettre en place des dispositifs alternatifs qui puissent enfin respecter les valeurs d'humanité. Oui, enfin bon, si c'est des dispositifs alternatifs pour expulser les personnes...
Non, mais ils peuvent au moins les loger, quoi.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et voilà, donc la CIMAD conclut par « Il est urgent de rompre avec cette logique de répression ». C'est pas faux.
Bienvenue en France, quoi. Donc c'était Bruit de Tôle, donc en direct, la rediffusion, est-ce qu'il y a une rediffusion en août, je ne sais pas.
Eh bien demain il n'y aura pas de rediffusion parce que c'est le 15 août et que les salariés du coup ne travaillent pas,
c'est vrai ça, donc pas alors besoin de parler de la rediffusion.
C'est ça.
Donc d'ici l'émission de la semaine prochaine, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous envoyer une lettre, une carte postale, un mot doux, un poème, tout ce que vous voulez, à Bruit de Tôle, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou nous envoyer un mail à Bruit de Tôle, donc bruit avec un S, de Tôle, D-E-T-O-L-E-S,
@no-log.org. Et oui, et en fait, on essaye de mettre de plus en plus en ligne sur le site de Canal Sud les émissions de Bruit de Tôle, et celle-ci sera mise en ligne, donc si vous souhaitez la réécouter, on ne sait jamais, et ben ce sera sur le site de Canal Sud.
Voilà, et donc courage et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent, se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur, partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage, quand on est fait pour courir les chemins. En attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde, Il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire, chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.